Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, vous écoutez Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 10 novembre 2020. La Cour suprême des États-Unis examine aujourd'hui la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé. Cette loi de 2010, surnommée Obamacare, que les républicains n'ont jamais cessé de contester dans l'arène politique et en justice. La décision de la plus haute juridiction américaine attendue en 2021 est susceptible de faire totalement s'écrouler ce dispositif et de priver plus de 20 millions d'Américains de couverture maladie à un moment où la pandémie de COVID-19 fait des ravages aux États-Unis. Si la Cour accepte, comme le lui demande l'administration Trump, d'invalider totalement l'Affordable Care Act, cela retirerait également les protections accordées à plus de 100 millions de personnes souffrant d'affections chroniques. Coronavirus, les États-Unis ont estimé lundi qu'ils pourraient avoir un vaccin autorisé contre le COVID-19 d'ici quelques semaines après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus, mais le reste du monde devra encore attendre des mois. Le président élu Joe Biden s'est pour sa part adressé aux Américains en les implorant de porter le masque contre le COVID-19 et en portant sur les fonts baptismaux son comité de crise contre la pandémie. Plusieurs mois seront encore nécessaires pour que ce vaccin soit distribué largement une fois au point, a souligné le président américain élu lors d'une conférence de presse organisée dans son fief de Wilmington. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a demandé lundi au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de s'engager personnellement dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays. Depuis plus de 25 ans, le célèbre gynécologue a demandé au chef de l'État qu'il soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité en demandant au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. L'aviation éthiopienne a mené lundi de nouvelles frappes dans la région dissidente du Tigré. Le premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le conflit sera terminé sous peu, tentant de rassurer ses alliés inquiets de voir l'Éthiopie sombrer dans le chaos. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, réélu pour un troisième mandat controversé à la tête de son pays, a joué l'apaisement lundi en invitant son principal opposant, Henri Konan Bédié, au dialogue au terme d'une journée de violence qui ont fait au moins 9 morts. Monsieur Ouattara a invité l'ancien président à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance, a-t-il dit lors d'une adresse télévisée à la Nation quelques heures après la validation de sa victoire au premier tour de la présidentielle du 31 octobre par le Conseil constitutionnel. L'opposition ivoirienne qui a boycotté le scrutin et refusé de reconnaître sa réélection a créé un Conseil national de transition, le CNT. Des représentants libyens de tous bords ont débuté hier des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'ONU. Ces négociations relancent l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. Le Congrès péruvien a démis de ses fonctions lundi le président Martin Vizcarra dans le cadre d'un procès en destitution pour des accusations de corruption. Il a été notamment destitué pour incapacité morale sur fond d'accusation de pot de vin présumé qu'il aurait reçu en tant que gouverneur en 2014. Martin Vizcarra, 57 ans, a annoncé qu'il acceptait du moins le vote du Congrès et qu'il n'engagerait aucun recours en justice. L'ancien président bolivien Evo Morales a effectué lundi un retour triomphal en Bolivie, accueilli par une foule de partisans en liesse. Ce retour au pays de l'ancien dirigeant socialiste intervient après que son ex-ministre de l'économie, Luis Arce, a remporté massivement l'élection présidentielle du mois dernier. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé sous l'égide de la Russie un accord de fin des hostilités dans le conflit du Nagorno-Karabakh qui consacre les victoires militaires des Azerbaïdjanais. Ce cessez-le-feu intervient après 6 semaines de combats meurtriers. Et puis le premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé lundi soir un réveil à la Chambre haute du Parlement face à sa volonté de pouvoir s'affranchir de certains aspects de l'accord de Brexit. Ce réveil intervient au début d'une nouvelle semaine cruciale de négociations avec Bruxelles sur leurs futures relations commerciales. Jean-Roger Bion, dans un instant, la suite de nos informations. la suite de nos informations ce mardi 10 novembre 2020, présidentielle américaine. Joe Biden a été donné vainqueur de l'élection présidentielle par les médias américains. Les résultats définitifs tardent encore à se faire connaître dans 4 États, Caroline du Nord, Géorgie, Arizona et Alaska. Le point avec Jacques Aristide.
Chaque État attribue un certain nombre de grands électeurs. Avec ceux déjà déterminés, Joe Biden compte 279 grands électeurs au-dessus du seuil des 270 nécessaires pour s'ouvrir les portes de la Maison-Blanche. En face, le président sortant, Donald Trump, a obtenu pour le moment 214. En Arizona, avec 11 grands électeurs en jeu, Joe Biden enregistre 49,5% des suffrages contre 49% pour Donald Trump, soit un mince écart de 16 985 voix d'après un décompte de 98% des bulletins. En Géorgie, qui compte 16 grands électeurs, plus de 98% des votes ont été comptabilisés. Cet État du Sud-Est a toujours voté républicain depuis 1996. Le démocrate Joe Biden a plus de 10 350 voix d'avance sur Donald Trump. En Caroline du Nord, avec ses 15 grands électeurs, un total de 98% des votes ont été comptabilisés dans cet État. Traditionnellement républicain, avantage pour l'heure à Donald Trump, 50% sur Joe Biden, 48,6%, soit une avance d'environ 75 000 suffrages. Et en Alaska, avec 3 grands électeurs en jeu, 56% des votes ont été comptabilisés. Donald Trump est en tête avec 62,9% des voix. Aucun démocrate ne s'est imposé dans cet État depuis des décennies.
Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé hier la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat avec un score record. Son investiture est prévue en décembre. Éric Manirakiza.
Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour avec 94,27% des voix, a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Il a indiqué que le scrutin a été régulier, aucune irrégularité grave n'a été relevée dans les bureaux de vote. M. Koné a également souligné qu'il n'y a eu aucune réclamation des candidats. Selon les scores validés, le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. L'opposition qui ne reconnaît pas ces résultats a boycotté le scrutin du 31 octobre et a créé un conseil national de transition. Plusieurs leaders de l'opposition, dont son porte-parole Pascal Afinguessan, ont été arrêtés. D'autres, comme Henri Konan Bédier, l'ex-président, sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Hier, des heurts ont lieu à Abidjan ainsi que dans plusieurs villes du pays. Une quarantaine de personnes ont été tuées dans les violences liées à l'élection. La crainte d'une escalade des violences est toujours présente, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait près de 3000 morts.
L'aviation éthiopienne a mené hier de nouvelles frappes dans la région du Tigré. Le premier ministre Abiy Ahmed affirme que le conflit sera terminé sous peu. Les précisions de John Lindon.
Plusieurs frappes aériennes ont eu lieu ces derniers jours au Tigré, ciblant selon le premier ministre des objectifs militaires. Lundi, le Front de libération des peuples du Tigré, parti qui dirige la région, a affirmé que l'aviation éthiopienne a bombardé 10 localités du Tigré. Il a revendiqué avoir abattu un appareil éthiopien, une assertion qualifiée de complètement fausse par le général Mohamed Tessema, un responsable de l'armée éthiopienne. La communauté internationale a fait part de son inquiétude de voir l'Éthiopie sombrer dans un long conflit susceptible de déborder hors du Tigré. Ces inquiétudes sur le fait que l'Éthiopie va sombrer dans le chaos sont infondées, a assuré sur Twitter Abiy Ahmed, qui qualifie l'intervention militaire de simple opération de maintien de l'ordre. Selon des sources médicales et des travailleurs humanitaires, plus de 200 soldats ont été blessés et 8 tués.
Don Nidon qui reste avec nous pour la présentation de la Minute Éco.
Le résultat net de Bank of Africa Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire du même nom, a connu une hausse de 23,3% au terme du troisième trimestre 2020 comparé à la même période de 2019. Ce résultat net s'est établi à un peu plus de 11 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020 contre 9 milliards de francs CFA au 30 septembre 2019. Starbucks, la chaîne américaine de distribution des cafés, compte lancer 8 nouveaux points de vente en Afrique du Sud d'ici à la mi-décembre. Ces points de vente seront notamment déployés à Johannesburg, Pretoria ou encore Cape Town. Starbucks va s'allier avec le consortium Rand Capital Coffee qui a racheté en novembre 2019 les droits de distribution exclusifs de la marque auprès du franchisseur des restaurants Test Holdings. Les bourses mondiales exultent ce lundi avec l'annonce en milieu de journée par les laboratoires Pfizer et BioNTech que leur vaccin serait efficace à 90% contre le COVID-19. La même euphorie était sur le point de gagner les États-Unis où l'indice Dow Jones s'annonçait en hausse de plus de 5,6%. Cette annonce intervient alors que les États-Unis, comme l'Europe, font face à des records de nouvelles contamination face à cette deuxième vague qui pourrait sérieusement escamoter la reprise économique.
À présent, le sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La CAF a procédé hier au tirage au sort du tour préliminaire de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. De nombreux clubs ont été exemptés de ce premier tour en Ligue des Champions en raison de leur performance. Il s'agit entre autres du Zamalek et d'Al Ahly qui s'affrontent en finale de l'édition en cours le 27 novembre. Le Wydad Athletic Club de Casablanca et le Raja Casablanca, le tout-puissant Mazembe et Vita Club de la République démocratique du Congo, l'Espérance Tunis de la Tunisie, bien sûr, Oroya de la Guinée, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Primeiro de Agosto de l'Angola. Par contre, des formations comme le MC Alger qui fera face au Béninois du Buffle FC, le CS Faxien contre l'Alangé FC de Zanzibar et les Kaiser Chiefs face au Camerounais de PWD de Bamenda devront batailler lors de ce tour préliminaire pour espérer poursuivre l'aventure africaine. Les matchs aller auront lieu du 27 au 29 novembre et ce retour du 4 au 6 décembre. À cette même date auront lieu les préliminaires de la Coupe CAF, où plusieurs clubs ont bénéficié d'une exemption du tour préliminaire. C'est le cas du tenant du titre La Renaissance Sportive de Berkane, mais aussi de l'Entente Sétif et de la JS Kabylie, les AE FC du Bénin, le FC San Pedro de Côte d'Ivoire, l'ES Sahel de la Tunisie, Pyramide d'Égypte, Al Ahly Tripoli de la Libye, Hilal Obeid du Soudan, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, le Kasisiye de l'Ouganda, l'UD Songo du Mozambique et le DC Motoma Pembe de la République démocratique du Congo. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe s'est porté candidat à la présidence de la CAF en mars prochain, a annoncé la Fédération sud-africaine de football. Ancien avocat Patrice Motsepe, beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, a fait fortune dans l'exploitation de mines. Il possède les Mamelodi Sundowns qui font partie des 10 meilleurs clubs africains et ont réalisé le triplé en Afrique du Sud la saison passée. Il est la personne la plus apte que nous pouvons présenter pour ce poste. Nous ne voulons plus de problèmes éthiques à la tête de la CAF, a déclaré Danny Jordan, président de la Fédération sud-africaine. Cette candidature de Patrice Motsepe s'ajoute à celle de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF, qui brigue un second mandat. Le sélectionneur Aliou Cissé et les Lions de la Teranga comptent des blessés dans leur rang avant d'affronter la Guinée-Bissau en éliminatoire de la CAN 2021. La fédération a confirmé les absences de Famara Djedjou et Saliou Cissé qui ont contracté le Covid-19 en plus des deux. Ousseinou Ba, Baldé Keïta et Idrissa Gana Gueye sont absents pour cause des blessures. Sara Thioub, Nabi Sara, Formose Mendy et Alpha Dionkou ont été appelés en renfort. Le gardien Bingourou, Camara de Strasbourg, est aussi incertain. Le Sénégal est en tête de son groupe avec 6 points et fera face à la Guinée-Bissau demain à Thiès avant le retour le 15 à Bissau.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, toujours en votre compagnie Jean-Roger Billon, à présent nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue d'insister sur des irrégularités lors de l'élection présidentielle américaine. Le candidat Joe Biden, vainqueur selon les projections de la VOA, met en place un groupe de travail sur le coronavirus. Reportage Michel Quinn, récit Lionel Gaïma.
Les États-Unis restent très divisés depuis l'élection présidentielle du 3 novembre. Presque une semaine après, Joe Biden déclare qu'il entame dès maintenant sa transition vers le pouvoir. Le président Donald Trump, qui ne s'avoue pas vaincu, dit que les votes sont toujours comptés dans certains États et qu'il devrait avoir la possibilité de lancer des défis dans les États où il y a des allégations de fraude. Kristi Noem est la gouverneure républicaine du Dakota du Sud.
Ce que je trouve intéressant, c'est cette déclaration de certaines personnes disant que c'est une victoire écrasante pour Joe Biden. Ce n'est tout simplement pas vrai parce que vous avez un grand nombre d'États qui sont toujours en jeu.
Les dirigeants démocrates ont appelé les homologues républicains à accepter les résultats projetés dans l'intérêt du pays ou de fournir des preuves de la fraude. Chris Coons, sénateur démocrate du Delaware.
Si les républicains veulent soutenir le président Trump dans sa résistance à accepter le résultat des élections, le président doit montrer des faits, pas seulement des tweets colériques.
Le président élu n'entrera en fonction que le 20 janvier à midi. Mais l'équipe de Biden a commencé sa transition pour diriger le pays en mettant en place un groupe de travail pour lutter contre le COVID-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis. Les plans pour la prestation de serment du président se poursuivent. Roy Blunt, sénateur républicain du Missouri, est aussi président du comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales.
Je m'attends à voir le vice-président Biden et le président Trump sur la scène le même jour de l'inauguration. Et ce sera un message puissant, quel que soit celui d'entre eux qui aura prêté serment ce jour-là.
Après avoir longuement attendu les résultats des élections, la nation est prête à passer à autre chose après une campagne présidentielle âprement disputée.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, la présidentielle américaine a aussi été suivie de très près. Depuis le 3 novembre, une bonne partie de la population malienne suit les médias afin d'avoir la bonne information sur ce scrutin historique. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Même si ce n'était pas la grande liesse, la victoire du candidat démocrate pour être le locataire de la Maison-Blanche a été bien accueillie par certains Bamakois.
Un nouveau président est comme un nouvel espoir, si je peux le dire. De loin, on voit que les Américains sont contents, c'est-à-dire que le nouveau président américain a été élu pour les Américains.
Le président sortant, Donald Trump, n'a pas dit un dernier mot. Il est en train de multiplier des recours en justice.
Moi, je suis très, très heureuse, super contente de la victoire écrasante de M. Joe Biden. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. C'est une nouvelle Amérique qui débute là.
Nous voyons qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux comme cela se fait chez nous en Afrique ici.
Si on voit les résultats déjà annoncés, on se rend compte que l'Amérique est profondément divisée.
Ici, c'est le score et le taux de participation qui ont impressionné la classe politique malienne, à l'image de Moussa Seydi Diallo du parti IRD. Il salue la victoire de Joe Biden.
Il est le président le mieux élu des États-Unis avec plus de 74 millions de voix. Il faut aussi dire qu'il met pratiquement 4 millions de voix entre lui et le président sortant Trump. Il devient président dans une Amérique hyper divisée parce que Trump a choisi de faire une politique nationaliste où il est allé chercher ceux qui d'habitude ne s'impliquaient pas dans la politique.
Pour le chroniqueur politique, non moins journaliste indépendant, la défaite de Donald Trump n'est point une surprise. Moussa Boli.
Qui a réussi à se mettre à dos aussi bien une partie de l'électorat américain ainsi que la communauté internationale, parce qu'à part son soutien au sionisme en Israël, je ne vois pas de pays qui peut dire qu'il a été respecté en tant qu'État par Donald Trump. Joe Biden, on espère, va réussir à améliorer les relations des États-Unis avec le reste du monde, même s'il ne faut pas trop s'attendre aussi à un changement notable de la politique étrangère américain, parce que comme il a dit, c'est un président élu d'abord pour les États-Unis, il ne faut jamais l'oublier.
Le président du réseau malien d'appui au processus électoral trouve que le vote par correspondance et par anticipation ont été favorables aux candidats démocrates. Dramane Diarra.
Ces modes de vote qui ont été favorables aux démocrates singulièrement ont été rendus opportunément nécessaire par la crise du Covid-19. Aussi, j'ai noté qu'aux États-Unis, la proclamation se fait par la presse. Également, je note que la justice n'est sollicitée que lorsque les résultats sont très, très, très serrés. Pour ce qui concerne l'élection de Joe Biden, un démocrate, ça va marquer le retour des États-Unis d'Amérique dans la communauté mondiale, donc dans le concert des nations.
L'élection de Kamala Harris comme vice-présidente est saluée par Kumbaba, une femme leader.
C'est l'élection aussi historique de la première femme en tant que vice-présidente des États-Unis. Donc nous la félicitons, Kamala Harris, pour tout ce qu'elle a eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça donne une lueur d'espoir pour toutes les femmes de par le monde. C'est quand même quelque chose de salutaire.
Si la bataille juridique annoncée par les Républicains n'aboutit pas, d'ici le 8 décembre, période de sécurité en matière de litige électoral aux USA, Joe Biden sera investi le 20 janvier prochain, 46e président américain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, les citoyens ont suivi avec beaucoup d'intérêt les élections américaines. Beaucoup pensent que Joe Biden pourrait apporter des changements dans la politique américaine sur l'Afrique, tandis que d'autres estiment qu'il n'y aura pas de grande différence dans les relations entre le Tchad et les États-Unis. Voici des réactions à N'Djamena dans un reportage de notre correspondant André Kodmajinga.
Très favorable à Joe Biden parce que nous sommes dans la même idéologie politique, nous militons pour lui, nous mettons tous nos poids dans la balance pour que Joe Biden soit élu.
Le sociodémocrate tchadien Max Kamkwe, pour lui, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche est bénéfique pour les Africains sur plusieurs plans.
Puisque c'est quelqu'un qui a déjà sillonné l'Afrique à plusieurs reprises, c'est pas seulement que les démocrates africains ou les sociodémocrates africains qui pourront en bénéficier, mais c'est l'Afrique tout entière qui aujourd'hui bute à un problème d'alternance sévère. Et le renouvellement du personnel politique, le renouvellement des dirigeants, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir ce qui s'est passé en Guinée et d'ici bientôt au Tchad. Et donc, mieux, un démocrate au pouvoir veillera au grain et fera en sorte que la démocratie puisse avoir pion sur rue en Afrique.
Abdramane Diasnabaye, homme politique, membre de la majorité présidentielle, estime que l'élection de Joe Biden offre une nouvelle perspective pour les Africains.
En tant qu'Africain, je souhaite quand même qu'il y ait une ouverture plus large. Moi, depuis un certain temps, on a senti une certaine restriction vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment en Afrique. Nous, le Tchad, nous avons connu notre part avant que la mesure soit levée. Donc, je pense que cette élection des démocrates puisse nous permettre de mieux coopérer avec les États-Unis d'Amérique. De toute façon, ce ne sera pas la même politique que ce qu'on vient de connaître.
Mais M. Léopold, un citoyen tchadien, ne partage pas cet avis. Pour lui, il faut que les Africains en général et le Tchadien en particulier soient réalistes.
Nous, Africains, nous avons beaucoup plus tendance que tel devient président de la République. Bon, celui-là va aider l'Afrique. On a pensé comme ça au temps de Barack Obama. Obama nous a prouvé que nous devrons compter sur nous-mêmes. Donc, sur ce point-là, il ne faudrait pas que les Africains ou les Tchadiens que nous sommes pensent que l'élection d'un président américain apporterait quelque chose à leur pays. Trump essaie de nous dire les quatre vérités. À nous, Tchadiens, par exemple, et ce n'est que normal. Mais croire que nous allons rester croiser les bras et attendre que les États-Unis doivent tout faire pour nous, là, c'est trop demandé.
Réaction similaire du côté du coordonnateur national du mouvement citoyen l'OTAN, Kemba Djida Alain. Toutefois, il nuance ses propos.
Avec l'avènement de Trump, il y a une remise en cause de plusieurs traités. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Joe Biden, nous avons déjà l'accord sur le climat où Joe Biden a décidé de re-signer. Il y a également l'Organisation mondiale du commerce, entre autres, qui sont des conventions que Donald Trump a décidé de remettre en cause. Et nous espérons que les États-Unis, en tant que leader mondial, puissent jouer sa partition dans la promotion de la démocratie pour permettre effectivement qu'on puisse connaître la paix dans le monde et le progrès.
Beaucoup de Tchadiens souhaitent que les relations entre les États-Unis et l'Afrique se renforcent sous la nouvelle administration. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur les États-Unis un peu plus d'une semaine après les élections du 3 novembre. Donné vainqueur de la présidentielle par les projections de la VOA, le démocrate Joe Biden se tourne vers la transition. Pour sa part, le président sortant Donald Trump promet de multiplier les actions en justice. Que pensez-vous de ce scrutin présidentiel? Quelles devront être les priorités de la prochaine administration? Quid de la politique américaine pour l'Afrique? Nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Au Congo-Brazzaville, ils sont nombreux à avoir également réagi aux élections américaines et salué l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les acteurs politiques, quant à eux, invitent l'État à s'inspirer de ce scrutin américain pour mieux organiser l'élection présidentielle de 2021 en République du Congo. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans les rues de Brazzaville, la population a diversement réagi à ces élections américaines.
Trump, qui était assez méprisant à l'égard de l'Afrique, en qualifiant les pays africains de pays de mer, il n'y a d'ailleurs jamais mis pied. Bon, c'est peut-être un ouf de soulagement.
En 4 ans, il est venu à la Maison Blanche et a voulu à la limite mettre l'Amérique de côté sur les grandes décisions du monde. Mais je pense que les Américains n'ont pas voulu sa façon de faire. L'échec de Trump, c'est la conséquence d'un vote sanction.
Kamala Harris, qui est la première femme à accéder donc à la vice-présidence, c'est une très bonne chose. Les Américains, je suis sûr, ils attendent énormément de cette équipe.
Le politologue Constant Ibarapeya trouve à dire sur le contentieux électoral aux États-Unis.
Ils l'ont fait avec une véritable chirurgie, pas dans la violence. On a créé des mécanismes du point de vue électoral qui ont fait que le président Trump ne pouvait pas s'en sortir. Je prends pour exemple le vote par correspondance. C'est un élément qui lui a été fatal. Bon, la fraude n'est pas une spécificité africaine. Moi, je n'ai pas compris pourquoi, dès lors que le président Trump a parlé du contentieux électoral, les gens ont crié au scandale alors que c'était un principe sacro-saint.
Les acteurs politiques congolais trouvent de nombreuses leçons à tirer de ces élections. Pour l'ancien ministre Alain Akwala, une fois de plus, les États-Unis ont prouvé la solidité de leur démocratie.
L'Amérique a démontré au monde qu'elle possède des institutions extrêmement fortes. Alors maintenant, le président Biden est élu. Ce que j'aimerais souligner, c'est son discours de réunification, d'apaisement. Mais en même temps, the American dream, le rêve américain, semble encore plus fort que jamais.
S'exprimant dans un contexte préélectoral avéré, car le scrutin présidentiel est prévu ici en mars prochain, l'opposant Paul Makaya appelle les autorités à s'inspirer de la démocratie américaine.
Il n'y a pas eu violence, mais dans notre pays, à nous, notamment au Congo-Brazzaville, après une élection, il y a toujours contestation, il y a toujours guerre. On l'a toujours dit chez nous au Congo. On ne peut pas, par exemple, aller à une élection dans les mêmes conditions que celles de 2016. Le résultat sera le même. Ce que nous voulons, c'est le dialogue. Mais le peuple congolais n'a pas besoin de faux fuyants. Des gens qui vous parlent de Madingo de façon cavalière.
Dans l'ensemble, les Congolais saluent l'élection de Joe Biden et espèrent voir le nouveau président américain plus proche de l'Afrique et du Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez connecter et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition matinale. Mise en onde, Michel Joseph, Jean-Roger Billon à ce micro. Retrouvez-nous sur voafrique.com 24h sur 24.